Georges Vigarello, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à la station Aussaune, chez Mola. Nous sommes aujourd'hui réunis pour évoquer votre ouvrage « Les logiques du corps, une autre manière de penser le temps ». Alors Georges Vigarello, vous êtes connu pour vos ouvrages sur le corps, sur la santé, sur l'hygiène. Mais il faut immédiatement préciser que vous êtes aussi un connaisseur des pratiques.
Oui.
Puisque dans votre parcours, dans
votre trajectoire... Dans un temps archéologique.
Oui, mais vous êtes diplômé en éducation physique.
Absolument.
En philosophie, vous réunissez la théorie et la pratique avant d'avoir consacré une thèse, bien sûr, sur le corps redressé en 1977. L'ouvrage que vous nous proposez, sur lequel on va revenir aujourd'hui, est une sorte d'approfondissement successif de thèmes que vous avez déjà étudiés, que vous avez déjà travaillés. Pour le grand public, vous êtes l'historien du corps, vous êtes aussi celui du viol, avec cette histoire du viol, en 1998, un ouvrage qui a fait date pour tous les historiens, celui d'autres aspects aussi, de l'hygiène et de la beauté du corps. Dans une trajectoire diverse, vous avez abordé l'histoire du corps pour vous intéresser ensuite à un sujet extrêmement contemporain, celui de la virilité, c'est-à-dire de ses instrumentalisations. Mais vous n'avez jamais négligé les représentations, les perceptions, notamment ce très beau livre « Le sentiment de soi » paru en 2014, ou « La naissance de l'intime » avec Alain Corbon et Jean-Jacques Courtine en 2016-2017, une véritable somme. Vos derniers travaux ont été consacrés à l'histoire de la fatigue, un thème novateur et original, enrichi également avec l'intégration, une fois de plus, du sport, thème qui revient à plusieurs reprises dans vos travaux. Ainsi, on peut dire que vous êtes l'historien du corps, des corps, de leur représentation, de leur pratique, c'est-à-dire de l'usage que l'on en fait. Dans cet ouvrage, « Les logiques du corps », vous procédez à une forme d'approfondissement de ce que vous avez déjà développé par le passé. Et donc, j'aimerais qu'on revienne dans un premier temps un petit peu sur la genèse de ce livre, sur votre volonté d'aller au-delà de ce que vous aviez étudié dans le corps, la beauté, le viol, l'histoire et ses pratiques. Qu'avez-vous voulu nous dire avec ce livre?
Alors, écoutez, d'abord, je commencerai par des remerciements. Je trouve que la librairie Mola reçoit les auteurs de manière extrêmement sensible et personnellement, je tiens absolument à le dire. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié votre propos. Effectivement, vous avez traduit la façon dont j'ai travaillé depuis plusieurs années. Alors, venons à votre question. C'est vrai que ce livre peut apparaître comme une sorte de synthèse, au fond, des textes que j'ai pu faire en essayant de poser le problème du corps au sens spécifique, alors qu'auparavant, tout en m'intéressant quand même à la question globale du corps, auparavant, je privilégiais un certain nombre de thèmes, vous l'avez très bien relevé, l'hygiène, la beauté, la sensation, la sensibilité, les pratiques, la fatigue, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est difficile de dire en un mot, mais j'ai voulu faire un texte où j'essayais de tracer des lignes allant au-delà, me semble-t-il, hein, allant au-delà, tout en reprenant des amorces des textes que j'avais écrits jusque-là. Alors, quelles sont ces lignes? Il y en a au moins deux. Il y a au moins deux grandes, si vous voulez, préoccupations. La première, c'est d'essayer de bien montrer que, contrairement aux apparences, les références corporelles sont plus unifiées qu'on ne le croit. Alors, on ne va pas développer ça longuement. Mais on en parlait tout à l'heure tous les deux. Mais c'est vrai que quand le jeune Vigarello a commencé à travailler sur ces questions, on lui disait, mais tu travailles sur un objet qui est absolument insaisissable. Tu parles du corps, mais le corps, c'est tout et n'importe quoi. C'est la façon de parler, c'est la façon de s'asseoir, c'est la façon de respirer, c'est la façon de manger, la façon de s'habiller. C'est complètement hétéroclite. C'est pas un sujet. Et beaucoup me l'ont dit. Hein. C'est pas un sujet. Bon. Or, personnellement, je pense que c'est un sujet. Et justement, c'est la suite d'un certain nombre d'investissements qui ont tendu à me le montrer. Alors, c'est un sujet comment? Ben, pour prendre un exemple très simple, si vous voulez. Après, je vais venir à ma deuxième remarque. Hein. Mais pour prendre un exemple très simple, lorsque vous vivez au Moyen-Âge et que vous essayez de comprendre ce qui se passe, même si c'est une compréhension très élémentaire, vous essayez de comprendre ce qui se passe quant à votre corps, vos repères, aussi bien chez les médecins hein, que chez les hommes et les femmes du commun. Vos repères, ce sont les humeurs. C'est-à-dire la partie liquide de votre corps. On considère que c'est la partie liquide qui est la plus efficace, qui est la plus importante. C'est celle qui renvoie à la santé. Parce que, d'abord, elle se voit. Vautrin parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité. Parce que quand vous êtes malade, ce sont les liquides qui se pourrissent, par exemple. Voyez, parce que lorsque vous devez manger, il faut respecter les liquides pour les rendre relativement purs et pas au contraire trop lourds, composés, etc. Parce que lorsque vous vous promenez dans la rue, il faut avoir un air qui soit suffisamment pur aussi pour que les liquides ne soient pas compromis en quelque sorte. C'est très intéressant cette affaire de pureté et impureté dans les époques anciennes. Et donc on voit qu'à partir de cette représentation qui privilégie les liquides, vous avez finalement une manière de rendre convergent un certain nombre de données qui apparaissent disparates et divergentes. Voyez, donc c'est ça qui m'a paru très important. Je pourrais continuer les exemples, mais en deux mots. Donc la période médiévale, c'est plutôt les humeurs. Si vous avancez dans le temps, vous vous rendez compte que le repère bascule complètement ailleurs, et en particulier, pour prendre simplement un exemple limité, fin 18e, début 19e, c'est l'énergie qui compte, ce sont les calories, c'est la façon dont vous alimentez le feu de votre corps. Voyez, alors du coup, ça change tout. L'importance donnée à la poitrine, la nourriture, c'est en fonction des calories, l'air, c'est en fonction de l'oxygène, il faut qu'il soit pur pour qu'il puisse provoquer du feu à l'intérieur de votre corps. L'exercice, c'est une façon de capitaliser l'énergie et entre autres la possibilité de feu, etc. Vous avez complètement changé de modèle, voyez, et votre modèle continue d'être unificateur. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'à partir de là, je me suis dit, bon, très bien, il y a une unification, mais c'est une unification qui porte plutôt sur la manière dont le corps fonctionne, dont le corps explique la manière dont il agit, si vous voulez, dont il se coordonne. Or, il me semble qu'il y a une deuxième dimension, c'est ce qui rend le livre, à la fois à mes yeux, intéressant et en même temps un peu difficile. Il y a une deuxième dimension, ce sont les choix. Une fois que vous avez cette unification, qu'est-ce que vous choisissez? Comment vous vous engagez? Qu'est-ce que vous préférez en termes de goût? Qu'est-ce que vous préférez en termes de sensibilité? Qu'est-ce qui vous fait peur, etc.? Qu'est-ce qui vous libère, voyez? Et ça, c'est ma deuxième partie. Et ma deuxième partie, et à mon avis, on en disait un mot tout à l'heure, elle est plus importante que la première, parce qu'elle porte sur les choix. Et à ce moment-là, on voit très bien qu'à mes yeux, alors là, je peux me tromper, mais à mes yeux, et ça me paraît neuf. Vous savez, les auteurs, ils ont toujours l'impression de dire des choses neuves. Hein. Donc, pardonnez-moi. Non, mais ça me paraît neuf. Je dis ça très modestement. Il y a trois dynamiques qui sont fondamentales et qui, elles, ne sont pas rompues dans le temps comme les modèles dont je parlais, qui sont distants les uns par rapport aux autres. Au contraire, cette dynamique, elle se déploie de manière continue dans le temps. La première, c'est que le corps, c'est un lieu d'affranchissement. Vous vous libérez. Et vous vous libérez de mille manières, à la fois à travers la technique, à travers l'acceptation du désir, à travers l'acceptation de l'élégance, etc. Vous vous libérez. La deuxième dynamique, c'est en quelque sorte, je parle de l'Occident, hein, plus vous avancez dans le temps, et plus ce sont les repères individuels qui vont devenir importants. L'attention, alors le travail sur la beauté m'avait beaucoup évidemment aidé. La beauté qui s'individualise de plus en plus, les choix individuels de plus en plus importants, la sensibilité de plus en plus caractérisée, etc. Ça, c'est une deuxième dynamique et qui se déploie dans le temps. Vous voyez, ça commence à l'Antiquité et ça va toujours en s'accentuant jusqu'à aujourd'hui où on considère effectivement qu'il y a des beautés éminemment individuelles et pas du tout des beautés, je dirais, standards ou complètement anonymes en quelque sorte. Et troisième dynamique, très importante, parce qu'elle a des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est le fait que plus vous avancez dans le temps et plus vous intériorisez ce que j'appellerais, moi, votre espace affectif, plus vous donnez de la place à la manière dont la sensibilité peut s'aiguiser et la sensibilité peut peser, finalement, sur vos propres comportements. On le voit aujourd'hui, par exemple. Mais en un mot, si vous voulez, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, les courtisans du 17e, c'est les gens qui sont ceux qui commencent vraiment à entrer dans une modernité de l'intériorisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne montrent pas, qui sont obligés de ne pas montrer leurs affects, qui sont obligés de constituer des cabales. Et pour montrer des cabales, il ne faut rien dire. Vous voyez, il faut absolument pas laisser apparaître. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui va peser dans votre... Et au 19e, cette façon d'évoquer la manière dont l'intériorisation pèse sur vous, mais on progresse, c'est destructeur. Et les images magnifiques de Balzac sur le père Goriot montrent à quel point le père Goriot, en intériorisant ses affects, c'est quelqu'un qui se détruit. Vous voyez, donc ça, ça me paraît très important. Et puis après, vous avez les traumas aujourd'hui, donc ça part de loin. Bon, ouais, non, bref, en un mot, l'intériorisation me paraît une dimension très importante parce que à la fois, elle nous grandit et en même temps, elle nous fragilise.
Tout à fait, cette intériorisation qui est aussi une sorte d'écho à la manière de vivre son corps. Et
oui,
ce qui
absolument.
Est assez surprenant, ou que votre ouvrage met bien en évidence, c'est que vous dégagez donc quatre modèles, un peu quatre temps, le modèle humoral à l'époque médiévale, vous développez ensuite d'autres modèles, le modèle fibreux à l'époque des Lumières, le modèle énergétique au 19e, puis le modèle de l'information aujourd'hui.
L'information aujourd'hui. Je n'ai pas développé dans mon propos parce que j'ai voulu aller vite.
Notre corps est comme une puce.
Absolument.
Qui peut être décodé par nos smartphones, nos montres connectées, nos tensiomètres.
Le vaccin NR messager, c'est une pratique qui consiste à recoder les cellules, vous voyez.
Tout à fait. Notre corps est en soi un système d'information en lui-même.
Il est très important.
C'est assez...
Ce n'est pas indépendant, d'ailleurs. C'est une autre remarque que je voudrais faire, parce que je trouve que ça a du sens. Ce n'est pas du tout indépendant du milieu technique. Les milieux techniques sont des milieux qui tentent à influencer la façon dont vous imaginez des modèles, vous voyez. Or, on est dans un milieu technique totalement informationnel aujourd'hui.
Oui, et donc c'est finalement une manière aussi de vivre son corps. On a l'impression, dans votre livre, il y a toujours une sorte de triptyque qui ne se lit pas, c'est-à-dire qu'un corps, la manière de le vivre, répond à un moment avec les connaissances que l'on a, la science, ce que l'on sait du corps, de son fonctionnement. C'est aussi des contraintes politiques, vous le montrez très bien au XXe siècle, XXIe siècle, les évolutions, c'est-à-dire que la manière d'affirmer son corps est aussi quelque part une tension par rapport à un système politique. Et puis, c'est une volonté de soi. Ce soi qu'on place souvent au XVIe, XVIIe siècle, qui apparaîtrait après la Renaissance, finalement, à l'automne de soi, jusqu'à aujourd'hui, est une sorte lente conquête de l'homme.
Oui.
Néanmoins, est-ce que dans les périodes précédentes, on pourrait retrouver comme ça des sortes de fulgurances où on s'est cherché soi-même à l'intérieur de son corps?
Oui, alors écoutez, moi je suis très sensible à ce que vous venez de dire, mais je ferai trois remarques. La première concerne la question contemporaine qui part du modèle informationnel.
Oui.
Alors, le modèle informationnel triomphe, me semble-t-il, dans la façon dont on comprend l'organique. Mais le modèle informationnel triomphe aussi aujourd'hui dans la façon dont on comprend le psychique. Écoutez-vous, ressentez, fondamental, complètement différent de ce qui était pensé jusque-là, si vous voulez. Voilà. La deuxième remarque que je veux faire, en fonction de votre propos, c'est que en développant les fameuses dynamiques dont je venais de parler, il est clair qu'à la fois, on pourrait imaginer, je dis ce mot avec une immense prudence, à la fois on peut imaginer qu'il y a un progrès, mais en même temps, on peut aussi imaginer qu'il y a des résistances, on peut imaginer qu'il y a des oppositions. Et il est clair que l'affirmation individuelle pose mille problèmes. D'abord, ça pose un problème en ce qui concerne notre propre société, dans la mesure où elle tend à limiter, à rendre plus compliquées, plus difficiles les initiatives collectives, mais aussi elle rend insupportable pour certaines sociétés la façon dont nous fonctionnons. Quelqu'un, alors je ne veux pas faire de la politique de bas étage, ce serait ridicule si vous voulez, mais certaines sociétés ne supportent absolument pas la façon dont nous autorisons les dispersions individuelles. Elles ne supportent pas. Ces sociétés ne peuvent se penser que dans un système de fusion, et pas du tout autrement. Et le totalitarisme n'est pas autre chose. Et le totalitarisme naît à partir du moment où il y a une contestation radicale de cet individualisme qui inquiète. Mais pour revenir à votre troisième propos, oui, il y a évidemment des périodes où brusquement, il y a une sorte de découverte qui facilite ce que moi j'appellerais des formes de libération et qui passent par le corps. Alors il y en a mille, si vous voulez. Allons très vite, la fin de l'esclavage au moment de la Renaissance, c'est quand même pas secondaire. L'invention du purgatoire, toujours... Non, je dis Renaissance, je vais trop vite. Non, du Moyen-Âge. De même, l'invention du purgatoire, c'est pas du tout secondaire dans le 13e siècle. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? C'est l'idée que vous pouvez, au fond, vous livrer à des formes de péché qui ne vous condamneront pas définitivement. Donc ça libère en particulier votre, en partie votre corps, vous voyez. Ça, ça vous donne la, le sentiment qu'il y a des transgressions qui sont tolérables. C'est un immense changement. Prenons un autre exemple aussi, qui moi me paraît beaucoup plus important qu'on ne le croit, beaucoup plus important. Si on reste un instant sur la question du Moyen-Âge, la vision du corps, c'est une vision qui soumet, on n'a pas dit ça, qui soumet le corps à ce que j'appellerais, au fond, le système cosmique. Et que les planètes, c'est dans l'image du livre d'ailleurs, et que les planètes dominent un certain nombre de dispositifs corporels. Vous voyez, les maladies s'accentuent, la maladie de poitrine s'accentue selon le passage de tel zodiaque, etc.
Bon. Les astres ont un effet sur l'homme, sur
les astres ont un effet sur l'homme, et évidemment, cet effet est considéré comme très important. Même à la limite, les papes, ça va très loin, même les papes, au début de la Renaissance, calculent leur. Leur cérémonial ou leur cérémonie en fonction du passage des planètes, alors que c'est interdit au niveau religieux. Mais eux se laissent prendre, vous voyez.
Oui.
Alors, il se passe une chose quand même très importante, à mon avis, à l'époque classique, c'est que, non, c'est pas les planètes qui commandent. Et c'est fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas les planètes qui commandent? Ça veut dire que je peux choisir. Ça veut dire, par exemple, si on prend le problème du régime, il y a un très beau texte qui démontre ça de manière magistrale. On l'avait publié avec Jean-Jacques Courtine, qui était venu ici d'ailleurs parler du texte sur les émotions. On l'avait publié avec Jean-Jacques Courtine dans les années 90. Ce texte est celui de Luigi Cornaro, qui est un noble vénitien de la Renaissance. Il écrit son livre qui s'intitule « La sobriété » en 1558. Alors que dit Luigi Cornaro? À une époque où il y a quand même une sensibilité selon laquelle ce sont les as qui commandent. Si les as commandent, ça veut dire que je dois choisir certaines nourritures en fonction de mes humeurs, mais mes humeurs, elles sont aussi commandées par le passage des planètes, voyez. Or, si ce n'est plus ce type de dispositif qui l'emporte, ce sont mes choix qui l'emportent. C'est-à-dire que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce que je vais manger. C'est moi qui vais m'interroger sur les goûts que j'ai. Et c'est une immense conquête individuelle. C'est gigantesque, en quelque sorte. Et je pense que c'est, du coup, la Renaissance, me semble-t-il, je dis ça encore avec prudence, hein, la Renaissance introduit notre modernité. Vous voyez, il n'y a pas que la Renaissance, les Lumières aussi, mais elle introduit notre modernité. Parce que quelqu'un comme lui, comme Luigi Cornaro va vous dire, mais la nourriture, ben c'est moi qui l'ai choisie, qu'est-ce que vous me racontez? Les astres peuvent nous incliner, mais ils ne nous imposent pas. Vous voyez, Machiavel dit la même chose. Les astres, il faut absolument les surmonter. Alors, le Machiavel, c'est horrible. Parce que c'est horrible. C'est comme les femmes. Il faut les dominer. C'est affreux. Vous voyez, mais ça renvoie des mentalités. Ça m'intéresse historiquement. Parce que ce qui est intéressant historiquement, c'est de voir comment les mentalités anciennes étaient très différentes des nôtres et comment nous nous sommes libérés des mentalités anciennes. Voilà.
Tout à fait. Avec cette idée qui apparaît aussi beaucoup dans votre livre, que les périodes anciennes n'étaient pas des périodes de simplisme. Le corps était rendu dans sa complexité. On n'en comprenait pas autant de choses qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même une forme de complexité. On peut être surpris, finalement, que les organes soient pas plus présents, voyez, alors que nous, quand on conçoit en biologie ou à partir du 20e siècle, quand on étudie à l'école le corps humain, etc., on étudie les organes. Et finalement, les organes, c'est pas qu'ils disparaissent, mais ils sont un petit peu moins présents. Par exemple, il y a, comme ça, on peut penser au cœur. Vous revenez beaucoup sur les poumons, oui. Parce que c'est l'endroit où l'on inspire, c'est à partir du 18e siècle, l'endroit où l'on où il y a la combustion, quelque oui. part, de l'air qui donne oui. l'énergie. Mmh. Mais finalement, on est surpris que le cœur est assez absent, alors qu'on aurait pu penser, vous voyez, c'est un petit peu on a l'habitude de penser que le cœur est un peu le moteur du cœur humain. Mmh. C'est le moteur du sang, c'est le moteur aussi, c'est le lieu, dit-on, de l'amour, des sentiments, etc. Et finalement, le cœur est peut-être moins présent. Est-ce qu'il y a une contradiction ou...
Non, je suis très sensible à ce que vous dites. D'abord, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que on envisage le corps de façon, dans la tradition, hein, de manière plus complexe que nous le croyons.
Oui.
Parce que qu'est-ce que nous croyons? Que dans les époques anciennes, il n'était absolument pas attentif aux questions d'hygiène, il n'était pas du tout attentif au type de maladie, il n'était pas attentif à la contagion, ils dorment ensemble alors qu'un est malade dans ne l'est pas, mais ça se communique pas. On a cette idée là en fait, y compris dans les classes populaires, la vision est quand même beaucoup plus compliquée, hein. Elle est beaucoup plus compliquée parce que vous voyez, je disais tout à l'heure, vous êtes obligé de tenir compte du passage des planètes, mais même à la limite du climat, la pluie, quand il pleut, je dois manger sec. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Je mange pas humide, etc. Bon, et en même temps, on voit bien que Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les détails peuvent être absolument fascinants, parce que vous avez une vision dans ces perspectives, appelons-les médiévales, mais encore dans l'époque classique. Hein. Vous avez une vision sur laquelle le corps passe par un certain nombre d'étapes. Mmh. Autrement dit, l'enfance, c'est un lieu où domine le liquide très fortement, et puis le liquide va insensiblement se diminuer. Mais en même temps, vous avez des tempéraments. Donc, il y a des tempéraments où le liquide domine. Par exemple, les femmes sont plutôt flegmatiques, et donc elles ont beaucoup plus d'eau que les hommes, etc. Et du coup, vous voyez, c'est extrêmement complexe. En fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction du temps, vous devez calculer ce qui est sec, ce qui ne l'est pas, ce qui est chaud, ce qui est froid, etc. C'est infiniment plus complexe qu'on ne le croit. Alors, venons-en à votre deuxième question, qui est celle du cœur. En fait, indiscutablement, dans les époques anciennes, ils savent bien que le cœur est au cœur de l'organisme. Ils le savent bien. Et ils ont une image qui est vraiment très intéressante à mes yeux. Hein. Alors, c'est plus une image médicale qu'une image populaire, bien sûr. Mais ils ont une image selon laquelle, je pense à l'air. D'ailleurs, il reste à faire un livre sur l'air, en fait. Hein. Mais je pense à l'air. Pour ces témoins des époques anciennes, l'air, c'est quelque chose que vous absorbez. Très bien, d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais la façon dont il va rentrer dans le corps passe par le cœur. Et c'est le cœur qui, en s'agitant, va le réchauffer, va permettre, dans une certaine mesure, de le purifier. Et en le purifiant, il va le faire monter au cerveau, lequel cerveau, grâce à cet air qui devient totalement vaporeux, va diffracter l'air en question. C'est un peu compliqué, ne m'en veuillez pas, dans les nerfs, pour que les nerfs fonctionnent. Donc le cœur est très important. Dernière remarque concernant le cœur. Je pense à ça parce qu'il y a ce très beau livre de Patrick Boucheron sur la peste qui est sorti. Mmh. Quand vous essayez de réfléchir à la façon dont la peste était perçue dans les époques anciennes, la peste atteint directement le cœur. C'est-à-dire que le venin vient mordre le cœur et finalement entraîner la mort. Voyez. Donc c'est plus important qu'on ne le croit. Mais votre remarque reste très importante parce que c'est vrai que ça se déplace. À partir du moment où quelqu'un comme Lavoisier montre que la respiration, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait auparavant, et que la respiration, c'est du feu, tout est changé, et c'est dans la poitrine que ça se passe. Non. D'ailleurs, ça renvoie jusqu'à la mode, vous voyez, l'unité. À partir du moment où vous pensez que c'est dans la poitrine que se joue quelque chose d'important, ça va jusqu'à influencer la façon dont la mode est entendue. Élargissement des épaules, etc. Le corset s'élargit vers le haut.
On peut mettre en parallèle aussi que les compréhensions du corps... là, on cite Lavoisier et son expérience sur l'air, sont aussi concomitantes en fait de l'avènement des grandes évolutions technologiques. Mais la combustion, vous évoquiez la combustion.
C'est fondamental ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut arriver aussi à prendre en compte. Le corps n'est jamais complètement indépendant du milieu. Vous voyez, la machine à vapeur, dont le rôle est absolument central, en particulier pour faire progresser ce qui va s'appeler l'industrie. La machine à vapeur, dont le rôle est absolument central, c'est une machine à feu. Et c'est comme ça que le feu commence à prendre un rôle tout à fait nouveau dans la manière dont on explique ses effets mécaniques.
C'est comme s'il fallait comprendre le corps pour, quelque part, laisser advenir des évolutions.
Oui, le milieu...
Presque le moteur explosion,
si on pense. Dans les époques anciennes, le milieu, c'est évidemment pas celui des machines, c'est celui des pratiques quotidiennes. Et donc, effectivement, le pur, l'impur, les odeurs, vous voyez. C'est ça qui est dominant dans le milieu médiéval. Et au fur et à mesure que vous avancez, je pense en particulier, mais ici, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, je pense en particulier à la période cartésienne, c'est la machine, mais pas encore la machine à vapeur. Non. C'est la Mahonde, c'est la Monde, c'est la Fontaine, etc.
C'est la machine mécanique.
Mécanique.
C'est le mécanique qui...
C'est l'invention de la mécanique.
L'invention de la mécanique.
Absolument.
De la mécanique.
Alors,
la mécanique,
c'est curieux, d'ailleurs, l'époque classique, c'est curieux. J'avais beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y a une ambiguïté. Ils n'ont pas abandonné les humeurs.
Non.
Mais en même temps, ils prennent en compte la mécanique. Donc, ils commencent à jouer sur deux types de repères, vous voyez.
Qui elle-même est liée à aussi l'émergence le renforcement des mathématiques, développement
bien sûr. La transformation d'une technique mathématisée, calculée, géométrisée. Hein. On commence à penser aussi, c'est très important ça. Quand vous voyez comment au XVIIe, donc à l'époque classique, ils pensent à morphologie. On voit que pour la première fois, il la pense en termes de mécanique. Alors, il vous décrive des poulies, vous voyez, des essieux, etc. Ce qui n'existait pas au Moyen-Âge, bien entendu.
Mais tout ça est intéressant parce qu'on voit que cette vision complexe, le corps apparaît comme un objet qui est dépendant de sa période.
Oui.
Mais c'est comme si l'homme avait compris sa période à travers son corps.
Oui, en fait. En même temps, il tente de s'affranchir.
Oui.
C'est ça qui est... Alors, voyez, c'était présent dans mes textes anciens, mais ça allait beaucoup plus là.
Bien sûr.
Ben, l'enjeu de l'affranchissement me paraît absolument central, si vous voulez.
Alors,
central. Et je pense que ce livre... excusez-moi de le dire comme ça, une fois encore, il faut pardonner la prétention des auteurs. Hein.
Bon, mais... On vous pardonne tout.
Ouais, d'accord, c'est adorable. Non, mais c'est vrai que je tente de faire ce que j'appelle, bon, c'est très prétentieux de le dire comme ça, mais une forme d'archéologie de notre liberté. Vous voyez ?
Tout à fait. Alors, en ce sens, pour le public qui est avec nous, hein, vous proposez dans une seconde partie une sorte d'approfondissement, hein, finalement, de la conception du corps à travers l'idée d'un affranchissement où oui. L'homme s'affranchit de contraintes extérieures. Il y avait les astres, il y a eu aussi les religions, le pouvoir politique,
oui.
etc.
Toute bien sûr.
Série
bien
de contraintes. Ensuite, il y a une deuxième tension que vous mettez bien en évidence, c'est celle de l'individualisation. Comment le corps devient le sien, oui. le nôtre.
Alors, nous, ça revendique aussi, c'est ça qui est intéressant. Il revendique l'individualité.
C'est peut-être paradoxal pour une époque comme la nôtre qui a du mal à concevoir comment on n'aurait pas pu être individuel,
oui.
étant donné que nous sommes quand même très individualistes. Je pense que
là, oui.
comment concevoir à une époque où on n'aurait pas pu le penser autrement. Et puis, il y en a une troisième qui n'est pas l'affranchissement et qui n'est pas l'individualisation, qui est celle de l'intériorisation. Et par une série d'étapes comme ça, vous retracez comment le corps s'est un petit peu libéré de contraintes extérieures, les croyances religieuses qui contraignaient les corps, les astres et le cosmos, et puis les pouvoirs qu'on donnait, qu'on reconnaissait à des usages qui ont encore cours aujourd'hui, même s'ils ont lieu sous une forme très différente. Hein. On est surpris, on retrouve sous votre plume, je veux dire, des tendances très contemporaines où on fait brûler de l'encens chez soi pour purifier l'air, où on porte des pierres dont on pense qu'elles vont nous soigner. On boit des infusions qui nous disent qu'elles vont avoir les jambes légères, vous voyez, le soir, ou qu'on va bien dormir. Il y a comme ça une sorte de permanence qui est assez surprenante de rapport au corps, de croyances que l'on pourrait penser très anciennes et qu'en fait, on retrouve dans un écho assez surprenant dans nos sociétés très contemporaines. Est-ce qu'il y a comme ça quelques exemples qui vous ont surpris, des filiations qu'on retrouve aujourd'hui, on se dit, mais finalement, entre nous et l'homme du Moyen-Âge, il y a assez peu de différences, en fait, vous voyez, quand on regarde...
Non, mais c'est très important, effectivement, vous avez raison. Ça, c'est Alain Corbin qui m'a toujours orienté là-dessus. Il me dit, méfie-toi, il n'y a pas que de la continuité.
Ah.
Il y a aussi du retour. Alors, moi, je dis aujourd'hui...
Plaidons la continuité aujourd'hui, alors.
Voilà, pour moi,
quand on recevra
Alain Corbin, l'exemple de l'informationnel, si vous voulez. Bon, effectivement, j'insiste sur le fait que le corps, c'est quand même un lieu d'information. Vous voyez, c'est une sorte de micro-ordinateur extraordinaire qui renvoie des messages. Bon. Puis dans les textes, écouter les messages, bon, très bien. Mais en même temps, quand vous lisez les magazines, c'est aussi un lieu énergétique. Les plats qui vous sont proposés, souvent, sont qualifiés en fonction des calories que vous pouvez consommer. Donc ne nous illusionnons pas, c'est quand même complexe. Troisième exemple... Sur les problèmes contemporains, buvez, buvez, buvez. Pourquoi ? Ben pour précisément évacuer. Or, l'évacuation, c'est central dans la perspective des humeurs. Donc, c'est quand même assez complexe. Moi, je ne le nie pas. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les dynamiques dominantes, vous voyez ? Mais je voudrais rester un instant pour prendre des exemples et montrer comment s'installent des formes de continuité, quand même. Avec les retours, je ne le nie absolument pas, bien entendu. Mais comment s'installent les continuités sur l'affranchissement ? Prends l'exemple de l'affranchissement. Bon. Vous avez bien sûr, je l'ai dit, les problèmes religieux, moraux, la question de la question au fond du purgatoire au Moyen-Âge, ça, je ne m'attarde pas. Mais pour prendre simplement l'exemple des Lumières, qu'est-ce qui se passe au moment des Lumières ? C'est-à-dire deuxième moitié, en gros, du XVIIIe siècle, avec ce texte fondamental de Kant qui dit « vous dépendez de vous-même ». Bon, c'est quand même pas rien. Et je continue pas. Moi, j'ai fait de la philo dans ma jeunesse, mais enfin, j'oublie un peu. Ne me faites pas réciter Kant par cœur, je serais incapable. Mais au moins, il vous dit, vous dépendez essentiellement de vous. Bon. Prenons des exemples d'affranchissement au XVIIIe siècle. Il y en a un qui paraît complètement secondaire et marginal, et qui, à mes yeux, me paraît profondément symbolique. Quelqu'un comme Rousseau, que va-t-il dire ? Arrêtez d'enfermer les enfants dans des corsets. J'avais beaucoup travaillé sur les corsets quand je m'interrogeais sur la question de la de l'apprentissage de la posture. Et là encore, la tradition, c'est le corset, hein, c'est tenir le corps de manière où des forces extérieures viennent s'appliquer sur lui. Et Rousseau va vous dire, mais ça, ça n'a aucun sens, arrêtez de fermer les jambes. Mais c'est pas seulement l'enfant. Quand vous suivez les textes avec attention, vous vous rendez compte que cette libération, elle passe pour la première fois par l'habit, c'est-à-dire défaites vos contraintes, lâchez vos habits. Et il y a un exemple magnifique dans les lettres de Marie-Antoinette envoyées à sa mère, où Marie-Antoinette, donc ça, ça date des années 70-80 du 18e, où Marie-Antoinette dit, voilà, je ne porte plus de corset, donc elle se libère, très bien. Et sa mère dit jamais, c'est impossible. Donc elle envoie une lettre à l'ambassadeur d'Autriche pour qu'il impose à Marie-Antoinette de continuer de porter le corset. Parce que la libération passe par des formes que j'appellerais, moi, un peu bourgeoises, un peu liées à des franges sociales plus ou moins libérées, si vous voulez. Et en même temps, au contraire, la tradition chez la mère d'Antoinette reste au contraire très forte. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe en même temps au 18e, si vous regardez avec attention, si vous changez? Vous voyez, la libération, c'est pas seulement un problème de données physiques, c'est aussi un problème de données psychologiques, ou en tout cas de données affectives. Si vous regardez ne serait-ce que les tableaux, bon, qu'est-ce qui se passe dans les tableaux du 18e siècle chez des auteurs comme Fragonard et quelques autres? C'est quoi?
Les vêtements sont défaits.
À la fois, les vêtements sont défaits, et puis on suggère du désir. On suggère le fait que, après tout, il y a quelque chose de suggestivement excitable. Le tableau de Fragonard, sur lequel je crois que je me suis attardé, je ne me souviens plus parce que j'ai écrit à plusieurs reprises sur Fragonard dans d'autres livres. Mais le tableau de Fragonard, vous savez, le plaisir de l'escarpolette, c'est un tableau absolument magnifique où vous avez la jeune femme qui lance sa balançoire avec son pied qui part, enfin sa sandale qui s'en va, et un homme dessous qui regarde. Vous voyez, qui regarde ce qui se passe entre les jambes de cette brave femme. C'est impossible d'avoir ce type de tableau au moment de la Renaissance. C'est impossible. Et là, il y a une conquête. À un point tel que on avait travaillé là-dessus quand nous avions fait une exposition avec Nadège Henry d'Agen à Marmottan en 2014 sur la toilette et sur la naissance de l'intime. On s'était beaucoup intéressé à ça. Et vous voyez qu'il y a des tableaux qui sont encore plus sulfureux que ceux dont je viens de parler, où les corps se dénudent, où on montre des parties secrètes, etc. Et ces tableaux sont en fait cachés à l'intérieur même des hôtels particuliers, recouverts d'un voile, et ils procurent du plaisir uniquement à quelques bourgeois qui viennent les regarder. Mais pourquoi? Parce qu'on accepte davantage le désir qu'on l'acceptait auparavant, même si on l'accepte de façon qui reste encore limitée, qui reste privée. Mais c'est une conquête, c'est une forme d'affranchissement, vous voyez?
C'est une forme d'affranchissement. Mais est-ce qu'on peut vous poser la question que...
Vous pouvez tout ce que vous voulez.
On peut vous poser la question que cet affranchissement de certaines contraintes, alors là, on le voit bien pour le 18e siècle, qui a été une époque de libération des corps, de différents corps, pas seulement le corps du noble enserré à la cour. Hein. Vous avez cité le bourgeois, mais on pourrait aussi, dans les tableaux de Greuze, oui. la population modeste
bien
aussi,
sûr, bien sûr.
Qui se libère. Hein.
Absolument.
Est-ce que ce ne sont pas d'autres contraintes qui réapparaissent? Parce que lorsqu'on va plus loin dans votre ouvrage, il y a aussi des contraintes nouvelles qui apparaissent lorsque vous évoquez aujourd'hui le regard permanent sur le corps. On peut aussi penser à la manière dont aujourd'hui les impératifs, non pas moraux, mais les injonctions de la société sur la taille, le poids. Est-ce que ce ne sont pas d'autres formes de contraintes, comme si la contrainte disparaissait sous une forme pour mieux réapparaître sous une
oui,
autre
alors,
forme?
Oui, alors, je pense que votre question est très importante, évidemment. Hein. Parce que, pour dire les choses très simplement, qui avaient été des choses qui avaient été un peu oubliées dans les années 60, on ne peut absolument pas échapper à des phénomènes de règles. Il y a des phénomènes d'interdit, il y a des phénomènes d'imposition. On ne peut absolument pas échapper. Simplement, ce qui me semble, moi, et c'est pour ça que je maintiens la question de l'affranchissement, ce qui me semble, c'est que ces contraintes, elles sont moins lourdes qu'elles ne l'étaient dans les époques précédentes. Prenons simplement l'exemple du corset. C'est évident que lorsque le corset saute, excusez-moi de parler sous cette forme-là, lorsque le corset saute, il y a d'autres contraintes qui arrivent. Si je continue de penser à Rousseau, Rousseau va vous dire, on ne peut pas laisser l'enfant comme ça. Il faut qu'il agisse, il faut que ses muscles, en quelque sorte, il ne le dit pas sous cette forme, mais ça revient au même. Il faut que ses muscles prennent la place de la contrainte extérieure. Il faut qu'une contrainte, il faut que quelque chose qui vient de l'intérieur prenne la place de ce qui venait de l'extérieur. Donc, vous avez tout à fait raison. La contrainte, dans une certaine mesure, et ça me paraît vraiment de l'ordre de l'évidence, est inéchappable. Mais il n'en reste pas moins que dans cette évolution, il y a un gain au niveau d'affranchissement et il y a ce que j'appellerais avec beaucoup de prudence un amenuisement au niveau de la contrainte. Vous voyez ?
Qui se révèle.
Alors, c'est ce qui me fait penser d'ailleurs, je continue parce que votre question reste quand même très, très préoccupante et très intéressante aujourd'hui. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, un seuil de libération qui, bien sûr, n'avait jamais été atteint jusque-là, bien entendu. Bon. Mais ça m'avait beaucoup frappé quand je travaillais, moi, à la fois sur la robe et quand je travaillais sur la beauté. Mais vous avez tout un ensemble de textes qui vous disent « Arrêtons avec le martyr de la mode. Arrêtons avec ces pratiques qui consistent à nous rendre de manière absolument obligatoire le fait de porter tel et tel vêtement, d'autant que c'est assez pervers, parce que ça fait gagner de l'argent à des gens qui ne sont pas peut-être d'une grande moralité, etc. Ça, bon, très bien, pourquoi pas. Mais si vous regardez avec attention, je pense que cette façon de réagir sur le mode du martyr, elle est liée à une sensibilité de plus en plus aiguë. C'est ce qu'on ne supporte pas, vous voyez, premièrement. Et deuxièmement, quand vous regardez avec attention ce que j'ai fait, bien entendu, quand vous regardez avec attention ce qui est dit dans les magazines, c'est magnifique. Les magazines vous disent « Ne suivez pas un style, trouvez le vôtre. » Et quand vous regardez, moi, les étudiants me disent toujours « Ah ouais, mais c'est toujours pareil, ils portent la même tenue. » Je dis « Venez dans le métro, regardez ce que les gens portent. » C'est extraordinairement différent. Donc il y a quand même, malgré ce diktat de la mode, il y a quand même indiscutablement une victoire de l'individualisation.
Tout à fait, une sorte de victoire de l'affranchissement.
Et de l'affranchissement. D'ailleurs, j'ai souvent confondu, à la fin du livre,
oui.
J'étais tellement occupé par les trois dynamiques que parfois je les croise.
Bon, et peut-être parce qu'elles se recoupent elles-mêmes.
Elles se recoupent, bien entendu.
Lorsque vous évoquez la puissance des corps, justement, au XXe siècle, la puissance du corps au XXe siècle, vous montrez bien que, en fait, ce corps se libère, s'affranchit, s'autonomise quelque part par l'activité.
Oui.
Et alors là, on retrouve la question du sport.
Oui.
On retrouve la question du sport, la question de l'activité. C'est peut-être moi qui ai un problème, mais ce qui est magnifique, alors vous citez que, en fait, les contemporains eux-mêmes étaient conscients que c'était leur activité qui allait leur permettre, leur offrir une forme d'émancipation. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de citer l'ouvrage. Puisque vous-même, vous citez un historien, Jules Isaac, qui écrit « C'est par la bicyclette que se fera l'émancipation de la femme. L'œuvre d'affranchissement est en bonne voie. Elle a gagné sur sa bécane le procès du costume. Elle se vêt en homme et ses jambes, devenues manivelles, ont activé la roue qui se déplace. » À tous les amateurs de vélo, amatrices de vélo, bravo. On a dans cette activité... Le corps en mouvement, le corps de cette activité, c'est finalement celui qui définit le corps, mais c'est ce qui permet aussi de s'affranchir. Et on touche de là une question qui revient, qui transparaît tout au long de votre livre, sans que vous l'ayez placé au centre, parce qu'il y en avait d'autres. C'est celle, finalement, du corps comme lieu de l'affirmation de l'identité. Connaître son corps, le reconnaître, le décoder, le reconnaître à l'intérieur, l'affirmer, l'individualiser, c'est recouper quelque part la question de l'identité.
Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites, à mon avis.
Désolé de poser des questions.
Non, mais au contraire. Je ne suis absolument pas... Non, je trouve que ça enrichit, au contraire. Non. Ce n'est pas du tout une critique, bien entendu.
Je sais.
Non, mais il y a deux questions. Il y a la première qui porte sur le phénomène sportif.
Oui.
Alors, évidemment, pour des raisons diverses qui sont liées à ma propre histoire, je suis sensible à ces exemples. Mais il se passe quand même, indiscutablement, dans la deuxième moitié du 19e, quelque chose qui est assez central. C'est-à-dire l'acceptation de se livrer à des pratiques qui sont des pratiques perçues comme des pratiques d'ouverture, voyez, qui sont des pratiques d'ailleurs de choix individuel. Elles sont démocratiques, hein, c'est des pratiques de choix individuel, c'est pas des pratiques dominées en quelque sorte, et ce sont des pratiques qui vous donnent le sentiment que vous gagnez quelque chose. Alors le vélo, c'est évidemment un exemple majeur, mais c'est pas le seul, hein, que vous gagnez au fond dans la conquête de l'espace, voyez, et que quelque chose se produit qui rend votre espace plus disponible, ce qui renvoie donc du coup à quelque chose, c'est dans l'affranchissement, mais qui est plus disponible, votre corps aussi est plus disponible. Donc, il y a des descriptions que je trouve, moi, très évocatrices, hein, où les gens disent, voilà, le stade pour moi, ça a été magnifique, le ballon, c'était une sorte de d'excitation qui me permettait de bouger. C'est bon. Donc, vous voyez, dans la ligne de l'affranchissement, indiscutablement, le sport joue un rôle important. Et puis, il y a, je trouve, une question qui est dans le prolongement du sport, mais pas seulement, c'est celle de l'identité. Et alors, c'est vrai que dans le processus de l'individuation, ce que j'appelle, moi, le processus d'individuation, il y a une conquête de l'identité. Je pense qu'un exemple, il y a 1000 exemples, hein, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, le premier peut-être, c'est la façon dont le dandy... Alors, le dandy, c'est Brummel, fin 18e, mais après, c'est d'autres, évidemment, Roger, Eugène Sue, etc. Le dandy, c'est quelqu'un qui travaille, on voit ça chez Baudelaire aussi, hein, qui travaille de manière tellement exigeante sur son propre corps, de façon à ce qu'il ait le sentiment que le corps traduit profondément ce qu'il est. Alors, c'est... Et d'ailleurs... Ça correspond à un moment précis de l'histoire, parce que c'est une manière, finalement, de montrer qu'une distance radicale va être prise par rapport au dispositif aristocratique. Le dispositif aristocratique, je dirais dans une grande mesure, voyez le débat autour de Marie-Antoinette, le dispositif aristocratique vous impose le vêtement. Il inscrit le vêtement sur votre propre anatomie, si vous voulez. Vous voyez, même s'il y a des choix individuels, etc., très bien. Mais au contraire, le dandy est quelqu'un qui va complètement rompre avec ce dispositif que j'appellerais aristocratique en choisissant radicalement ce qui lui convient et ce qui convient au sens le plus aigu de sa propre individualité. Et donc, sa personne, du coup, devient l'affirmation d'une identité. Vous retrouvez ça de manière encore plus intéressante, me semble-t-il. Enfin, pas intéressante, j'en sais rien. Mais chez quelqu'un comme Baudelaire, Dans le texte, je trouve un texte assez fascinant, hein, sur le maquillage, dans la prose et les parties sur l'esthétique. Qu'est-ce qu'il dit sur le maquillage? C'est vraiment très important, ça. C'est tard par rapport au dandy de Brummel, qui, lui, c'est 1790, quelque chose comme ça. Baudelaire, c'est 1859. Et Baudelaire va dire... En fait, la façon dont vous choisissez vos maquillages, hein, c'est une manière d'affirmer votre individualité. C'est une conquête. Et ça renvoie à de l'art. La façon dont vous dessinez le noir sur vos yeux, la façon dont vous placez votre rouge, c'est une façon profondément individuelle qui traduit votre identité. Et c'est une manière dont vous vous affirmez quasi artistiquement. C'est un texte magnifique.
Tout à fait, c'est d'une contemporanéité extraordinaire, c'est-à-dire que
très contemporain.
À la fin du 19e, oui. Quand on se maquille aujourd'hui, ou bien quand sûr. On fait du sport pour sculpter son corps, c'est de fait, il y a là, pour le coup, une continuité qui paraît assez indéniable.
J'ai oublié un peu la dernière phrase du texte, mais c'est vraiment, ça porte sur l'individualité, hein. C'est la victoire de l'individu. Hein. Ouais.
Dans ce parcours du corps, lorsqu'on le décode, lorsqu'on le recherche, on peut être surpris de voir disparaître ce qui avait été longtemps une grande question pour les historiens, c'est-à-dire de tout analyser sous l'angle de la hiérarchie sociale. Le corps des puissants qui ne serait pas le corps des bourgeois, qui ne serait pas le corps... Et finalement, vous réussissez à offrir une sorte de vision unifiante en montrant ce qui transperce, finalement, ce qui traverse la société de part en part, du haut au bas, parce que Marie-Antoinette n'était pas la seule à se défaire de ses corsets.
Évidemment.
Donc, Marie-Antoinette n'était pas la seule. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus que cette question vous a attiré ou
totalement.
Vous l'avez laissé de côté?
Non, l'objet, c'est très important ce que vous dites. Disons un mot sur les affaires. Je ne suis pas obsédé par Marie-Antoinette, vous avez compris.
Oui.
Disons un mot sur la question du corset. Ça apparaît également dans la peinture, hein.
Oui.
La peinture de Madame Lyotard, j'ai un peu oublié le peintre, elle est la liseuse, elle est complètement défaite au niveau de la poitrine. Les fameux lacets sont complètement ouverts, vous voyez, c'est très important ça, c'est à la même époque. Mais alors, pour reprendre votre question, c'est-à-dire finalement la manière dont on se défait de ce que l'on pourrait appeler le modèle social.
Oui,
moi je crois qu'il se passe quelque chose. Alors, évidemment, c'est pas aussi net que ce que je vais dire. Mais je crois qu'il se passe quelque chose au moment de la Révolution française, avec aussi l'équivalent de la conquête démocratique anglaise et l'équivalent aussi de la conquête démocratique américaine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la société qui était totalement, totalement codée, hein, c'est-à-dire que le noble, on le reconnaît parce qu'il porte une épée, on le reconnaît parce qu'il porte un certain type de pourpoint, il a un certain type de linge aussi, hein, le linge blanc, alors que le prolétaire, il a un linge, le chanvre, qui est un linge marron, etc. Bon, très bien. Mais vous voyez que à partir du début du 19e, un certain nombre de questions se posent. Le noble, on ne reconnaît pas nécessairement. Mm-hmm. Et l'introduction, moi, ça m'a toujours fasciné, cela. Enfin, fasciné, c'est un mot facile, mais ça m'a vraiment intéressé. L'introduction de la comédie humaine de Balzac. Lorsque Balzac présente ses 3000 personnages, eh bien, il dit, aujourd'hui, moi, je trouve ça magnifique, si vous voulez. C'est faux, mais en gros, aujourd'hui, dans la foule, on ne peut plus reconnaître qui appartient à quoi. Vous voyez? On ne peut plus reconnaître. Les gens s'est dispersé. Et c'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que je fais cette comédie humaine où j'essaie de caractériser des gens qui, de toute façon, sont devenus totalement différents les uns par rapport aux autres.
Qui se cachent derrière leur costume.
C'est très fort. Ben oui, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus le dispositif totalement codé, rigide, extraordinairement rigide. Parce que pour continuer de parler du problème du sport, vous imaginez bien qu'en 1750, il est inenvisageable qu'un bourgeois joue avec un prolétaire à la paume. Encore plus inenvisageable qu'un noble joue avec un bourgeois. Donc il y a quelque chose de cassé au niveau social qui était, par rapport au repère que nous avons nous aujourd'hui, qui serait aujourd'hui totalement insupportable. Et là, il y a un affranchissement précisément, vous voyez, parce que la foule du début du 19e, c'est une foule qui s'ouvre en quelque sorte. Et je sais que, je prends un autre exemple, je viens de terminer un livre sur l'histoire du mouvement dans la peinture. Et j'avais pris des exemples de foule, précisément. En particulier, un peintre qui s'appelle Dubeaucourt, qui peint au début du 19e. Eh bien, c'est tout à fait, je dirais, marquant de voir que dans cette foule, vous distinguez des individus, voyez ? Et vous ne distinguez pas quelque chose qui est totalement anonyme et standard. Et il y a une conquête là. Alors je continue. Moi, ce qui m'avait vraiment intéressé, quand j'avais travaillé sur la silhouette, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était, vous voyez, pour rester sur la mode un instant, hein, c'est les Anglais qui ont commencé. Parce que les Anglais sont libérés, à mon avis, avant nous. C'est les Anglais qui ont commencé.
Ils ont fait leur révolution avant nous.
Oui. C'est les Anglais. Et alors, quand vous regardez les gravures anglaises, vous voyez qu'ils sont étonnamment attentifs à des corps qui sont différents. Alors, par exemple, c'est les hanches qui sont plus larges, c'est les poitrines plus étroites, ou c'est l'inverse, les poitrines larges et les hanches étroites, etc. Mais ils caractérisent quelque chose qui est dans l'individu, et ça passe, évidemment, par le costume, bien sûr. Vous voyez ? C'est très fort, ça. Gilles Ray, en particulier, c'est un graveur exceptionnel de ce point de vue-là. Ou alors Hogarth aussi. Hogarth représente différemment, mais Hogarth, c'est un peu avant. C'est les années 80 du 18e.
Donc, on voit aussi, il y a une autre distinction qui disparaît un petit peu, enfin qui disparaît, qui est relativisée, que votre ouvrage me dit en perspective, c'est finalement, bon alors peut-être qu'on manque de sources pour les périodes anciennes, mais c'est la différence homme-femme, en fait, qui finalement, à l'égard du costume, à l'égard de l'affranchissement, l'homme et la femme se sont affranchis j'allais dire, de manière parallèle, hein, oui, symétrique.
Pas vraiment. Alors, je ne sais plus, j'avais une amie qui avait lu, quand j'avais balbutié un peu ce texte, une amie qui est féministe m'avait dit « tu ne parles pas des femmes ». Oh, évidemment.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ah non, mais ça n'a rien. Non, mais je comprends pas. Oui. C'est sans rapport. Je réponds comme ça. Évidemment, quand j'avais travaillé, si vous voulez, le livre que j'écris sur le viol, qui a traversé quand même mes années 90, hein, c'est des livres que vous écrivez lentement. J'ai dû mettre 5-6 ans. Hein. Donc ça m'a marqué. Et vous pouvez, quand vous travaillez sur un objet comme ça, vous ne pouvez absolument plus, mais plus du tout, parler du rapport homme-femme que vous en parliez auparavant. Et je me souviens, dans Le Corps redressé, j'avais fait une émission, ça j'adore ça, j'avais fait une émission avec Roger Chartier à France Culture, et il y avait Michel Perrault. Et Michel Perrault, toujours attentif, prudente, comment je pourrais vous dire, très sensible, pas du tout pénible, ça, me dit, mais Georges, vous parlez peu des femmes. Et elle n'avait pas tort, dans Le Corps redressé. Elle n'avait pas tort. Or, indiscutablement, dans ce livre-là, je ne peux pas oublier l'importance de la présence féminine. Donc, il y a de longs passages où je montre à quel point il y a une domination de l'homme sur la femme. Autrement dit, il y a un affranchissement qui peut passer par l'homme, mais qui, pendant longtemps, ne passe pas par la femme.
Tout à fait.
De la même manière, il y a un affranchissement qui passe par l'homme, mais pendant longtemps, ne passe pas par l'enfant. Et l'affranchissement de l'enfant est très tardif. Hein. C'est un immense travail lent, progressif, qui n'a lieu qu'en gros au 19e. Et le fait de condamner pour rester sur l'enfance une seconde, je vais revenir sur la femme après, mais pour rester sur l'enfance une seconde, ce n'est seulement qu'en 1889 que les parents violents sont condamnés sur le mode de la perte de l'autorité paternelle. 1889. Donc ça met un temps fou. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir un texte qui prend en compte le fait qu'il y a une domination qui s'exerce à l'égard de l'enfant. Et ce texte est aussi un texte qui porte sur, bien entendu, la domination qui porte sur le corps féminin. Non. Bien sûr. Et si vous voulez, j'ai un passage, à mon avis, auquel je tiens, qui porte sur le fait que les violences exercées à l'égard de la femme pendant longtemps ne sont pas considérées comme absolument scandaleuses, horribles, etc. Donc mon texte essaie de jouer, vous voyez, sur des lieux d'affranchissement qui ne renvoient pas à l'ensemble de la structure sociale, bien entendu. Hein. Et en revanche, le texte porte sur le fait que, oui, il y a un affranchissement féminin tardif qui commence curieusement au moment de la Révolution française, sur l'habit en particulier, mais aussi sur les revendications. Olympe de Gouges commence à revendiquer le fait d'avoir les mêmes métiers que les hommes, etc. Mais Olympe de Gouges, elle finit à l'échafaud. Mmh. Attention, ne l'oublions pas. Et donc, les révolutionnaires, qui sont des hommes sur le mode viriliste, interdisent les métiers féminins. Donc, il y a à la fois une avancée de ce que j'appellerais l'affirmation féminine au moment de la Révolution française, et puis il y a quelque chose qui arrête, casse. Et quand vous regardez l'habit, j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'essayais de faire, au fond, une histoire de la robe. Quand vous regardez l'habit, vous voyez que l'habit se libère. Je reviens à ma fameuse Marie-Antoinette. L'habit se libère à la fin du 18e pour la femme, mais il se referme. Il se referme au moment de la Restauration. La ceinture se restreint, la robe redevient une sorte, je dirais, de ballons qui anonymisent complètement les jambes, le corset revient à serrer, et là, il y a un immense travail, mais un immense travail extraordinairement long qui va aboutir à quelque chose qui est la libération de la femme, qui passe par la tenue, qui passe par les types de métiers, qui passe par les revendications, qui passe par des personnes comme George Sand, etc. Donc, vous voyez, et c'est plutôt au 19e, à ce moment-là, que je travaille sur l'affranchissement féminin.
Oui, parce qu'on voit bien en parallèle l'affranchissement et les violences qui s'exercent et qui reviennent par moment, à chaque fois, pour une sorte de contrainte, comme un équilibre qui n'arriverait pas à se...
Oui, vous avez raison. En même temps, vous voyez, je reviens au propos d'Alain Corbin. L'histoire, elle est faite d'avancée, mais elle est aussi faite de recul. Donc, les femmes, indiscutablement, s'affirment au début de la Révolution française, et puis il y a un recul. Et à ce moment-là, elles sont soumises, je dirais, aux contraintes qui étaient traditionnelles. Vous voyez, et là, c'est un immense travail, hein, très très lent, très long et extrêmement intéressant quand on s'intéresse à l'histoire, évidemment. Parce que pour terminer un mot là-dessus, la question de la robe, c'est une question beaucoup plus intéressante qu'on ne le croit. Hein. Mais pour terminer un instant là-dessus, l'affranchissement féminin, si on tient simplement compte du costume, hein, c'est un affranchissement qui passe par le fait que l'habit vient s'imposer sur la morphologie. C'est l'habit qui dicte la morphologie. Et la victoire féminine, c'est que la morphologie dicte l'habit. Et aujourd'hui, c'est ça.
Ça me paraît être une conclusion toute trouvée.
On peut imaginer, oui.
À cette très belle évocation de votre ouvrage qui traite du corps à la fois dans ses avancées et ses reculs, de ses affranchissements et de ses reculs. Bref, c'est un objet très dynamique, un objet d'histoire très actuel. Et donc, Georges Vigarello, merci pour cette présentation, Les logiques du corps, une autre manière de penser le temps. Merci à vous, merci de votre...
C'est moi qui vous remercie, parce qu'une lecture totale du livre, c'est pas une lecture donnée. Et je trouve que vous l'avez effectivement traversée d'une manière tout à fait pertinente.
Eh bien, merci beaucoup.
Mille fois.